De retour avec le maire de Châteauguay, M. Éric Allard. Monsieur le maire, on va continuer. Il y a quand même beaucoup d'éléments à soulever. Il y a donc des besoins. Là, on a besoin de la MRC et du fédéral parce que là, on a besoin de résolutions. Il semble y avoir une problématique au niveau de l'étiquetage de certains emballages là, qui semble erroné et qu'on veut absolument corriger. Là.
On a tous vu ça, des genres de serviettes humides où ce que c'est écrit qu'on peut les mettre aux toilettes, ouais. Flushable ou peu importe. Là.
Puis ça ne l'est pas.
Ça ne l'est pas. En fait, il y a plusieurs MRC, villes, qui s'en vont dans ce sens-là, qui demandent au gouvernement fédéral d'intervenir et demander que les inscriptions sur ces emballages-là soient corrigées. Parce que quand on met les serviettes humides dans la toilette, ça vient boucher les égouts, ça vient boucher nos installations, ça occasionne des frais importants parce que quand que tout est bouché comme ça, on doit briser l'asphalte, ouais. On doit se rendre jusqu'au tuyau pour aller nettoyer, pour enlever les serviettes supposément biodégradables.
Les gens, ils se fient carrément avec l'inscription, c'est marqué « flushable ».
Exactement, les gens font ça de bonne ouais. foi, mais ils n'ont pas la bonne information parce que c'est laissé libre. Donc, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent sur leurs emballages. Et évidemment, ça augmente leur vente, mais sauf que ça nous cause des problèmes importants. Quand on parle qu'on veut essayer de réduire nos dépenses, celle-là, là, c'en est une qui est importante. C'est très, très important que l'inscription soit modifiée pour que ça soit la réalité.
Et là, j'imagine qu'il y a plusieurs types d'entreprises qui vendent ces produits-là qui sont visées. Ou y a-t-il une marque en particulier qui est visée?
Moi, j'ai pas de marque en particulier, puis j'en vise pas une marque en particulier. Je sais qu'ils en vendent un petit peu partout. C'est plus le gouvernement qui peut venir intervenir au niveau fédéral qui la législation,
ouais.
C'est eux autres qui la contrôlent, donc de l'interdire, ça devrait être écrit « ne pas mettre aux toilettes ».
Oui, exactement.
« Mettez-le aux toilettes ».
Alors, c'est un peu un petit message qu'on lance à la population, donc méfiez-vous parce que, bon, quand ça ne veut pas dire que c'est vrai parce que c'est écrit, en tout cas pour ça, c'est pas vrai.
Exactement, donc évidemment, on invite les gens à ne pas mettre ça aux toilettes et on invite le gouvernement à venir... faire modifier les inscriptions sur les emballages. Ça commence à être urgent et pas seulement à Châteauguay, un petit peu partout.
Un autre coup de main qu'on a visiblement besoin, c'est surtout au niveau peut-être de l'équité, là, parce que c'est pour le financement du service de police au niveau de Châteauguay que c'est quand même une bonne portion du budget qui se retrouve là-dedans. Et là, vous avez besoin peut-être qu'au niveau provincial, qu'on vise ces flûtes parce que c'est pas tout à fait équitable, tout dépendant où on est, là, puis à qui qu'on s'adresse. Et c'est ça, là, je pense, qui est blessant dans l'exercice.
C'est vraiment, vraiment pas équitable, en effet. Je vais vous donner une idée. Le budget pour le service de police à la ville de Châteauguay, représente 25 % de notre budget global. Donc, notre budget, il est environ... l'année passée, il était de 100 millions. Bon, bien, il y a 25 millions qui partent pour le service de police. C'est un besoin qu'on a. On a des obligations aussi qui viennent avec la CMM, avec le fait qu'on est dans la CMM, on doit offrir un service de niveau 2.
Et là, l'idée, c'est pas de pas vouloir l'offrir, c'est le type de rémunération qu'on vous donne. Enfin, je vais vous laisser continuer là-dessus.
En fait, il y a deux éléments. Le fait que c'est un niveau 2 nous oblige à offrir des services qu'on n'a pas vraiment besoin de façon quotidienne. Je vais vous donner un exemple. On doit offrir le service d'enquête de scène de crime. Heureusement, à Châteauguay, on n'a pas des crimes à tous les jours. On en a... C'est très rare. Donc, on peut peut-être avoir besoin de ce service-là, quoi, une fois par 3 ans, une fois par 4 ans. Ça pourrait être une fois par 10 ans, je serais bien content. Mais on n'en a pas besoin tant que ça. Sauf que ce qu'on doit faire, par contre, c'est on doit former des policiers, pas juste un, parce qu'il a le droit de prendre des vacances. On doit former 2 puis 3 policiers avec ça, acheter le matériel qui va avec, garder ce service-là vivant alors qu'on n'en a pas vraiment besoin. Ça, c'est un exemple de choses qui doivent être revues. Mais pour le financement, ça, c'est juste pour expliquer pourquoi le service de police coûte très cher. Le problème avec le financement, c'est que les villes qui sont desservies par la Sûreté du Québec, je vais donner un exemple comme ça, la ville de Vaudreuil est desservie par la Sûreté du Québec, mais eux payent 50 % de la facture du service de police.
On parle du provincial.
Exactement.
Ils payent 50 % de cette facture-là.
En fait, la ville de Vaudreuil paye 50 % du coût de service de police qui est de la Sûreté du Québec. Okay. Leur ville.
Mais l'autre moitié,
c'est le gouvernement du Québec. Ouais. Donc, c'est l'ensemble des contribuables. Donc, nous, on paye à travers nos impôts pour 50 % du service de police de ces villes-là. Ouais. C'est complètement inéquitable et ça doit changer. Nous, à Châteauguay, on paie 100 % de notre service. Ça serait juste correct que nous autres aussi, on ait droit à ces subventions-là puis réduire nos dépenses.
Ouais.
Et en plus, ce que j'ai appris récemment, c'est que le gouvernement du Québec a donné un montant de 45 millions sur 5 ans à la Ville de Montréal pour les aider dans le recrutement pour les policiers. En clair, les policiers de Châteauguay s'en vont travailler à Montréal, puis le gouvernement du Québec aide Montréal à venir nous prendre nos policiers.
Oui, parce que j'imagine que l'offre salariale à Montréal est loin d'être similaire à ce qu'on peut offrir ici.
Ils ont donné des bonus de signature, évidemment, puis on jase, là. Je présume qu'un jeune policier qui sort de l'académie a besoin d'avoir des rushs d'adrénaline. Il y en a peut-être un peu moins à Châteauguay, mais plus à Montréal, donc ils veulent plus aller là, mais en plus, ils reçoivent des bonus de signature. Bref, c'est un problème de recrutement qu'on a qui est de plus en plus important, puis en plus, là, c'est inéquitable. Il y a un montant d'argent qui est donné par le gouvernement pour venir chercher nos policiers. Donc, il y a quelque chose qui doit être fait pour rendre le financement du service de police dans l'ensemble des municipalités au Québec de la part du gouvernement. Ça doit être équitable pour tout le monde, c'est très important, et surtout, ça doit être adapté aux réels besoins de chacune des villes. Parce que quand je vous parlais tantôt du niveau 2, je vous rappelle que toutes les villes qui sont dans la CMM doivent offrir ce service-là. La ville de Châteauguay dessert Saint-Isidore, par exemple. Mais Saint-Isidore doit offrir les mêmes services, là. Ils l'ont via la police de Châteauguay, mais c'est pas normal. Saint-Isidore, Léry, c'est la même chose. Ou Beauharnois, c'est la même chose, doivent offrir ces services-là. Donc, ça coûte une fortune, puis on n'en a pas vraiment besoin.
OK. On va changer de registre. On va demain aller dans quelque chose d'un peu plus festif. On va y aller avec, ça s'en vient très, très bientôt, parade de Noël, là. Encore une fois, ça va être quelque chose qui va revenir parce qu'on en était... On en a été privé. Puis j'ai un autre élément aussi. Bien, en fait, il en reste deux, trois autres. Là. Mais parade de Noël, ça s'en vient. Là.
La parade de Noël, c'est un moment festif. En effet, c'est le 2 décembre à 18h45. On part de l'église Saint-Joachim. On se rend jusqu'à la bibliothèque. On se rappelle que l'année passée, la température, elle avait été épouvantable. On avait dû annuler la parade de Noël au grand désarroi.
Ça arrivera pas, là, cette
semaine. Ça arrivera pas.
Non, je le dis, moi.
Ça va être très positif. Là, ça avait été au grand désarroi des enfants et des parents, mais je peux vous garantir que ça avait été aussi au grand désarroi des employés qui ont travaillé très fort pour mettre tout ça en place. Mais de toute façon, là, ça va bien se passer. Il va y avoir une belle parade. Donc, on invite les gens à s'installer tout le long du parcours. Ça va débuter à 18h45. Ça va être un très beau moment.
Et puis, il y aura notre fille des étoiles nationale, Marie-Hélène Thibert, qui va être là, entre autres.
Exactement, qui participe à la parade. Ouais. Oh, ça va être un beau moment.
Okay. Un autre beau moment que donc les Châteaugois et Châteaugoises peuvent être visiblement fiers, c'est donc l'initiative de la municipalité de Châteauguay donc, de s'approprier entièrement l'achat du centre aquatique intérieur qui a été annoncé la plus récente séance du conseil municipal.
Ouais. Ça, c'est très chaud comme annonce, en effet. Il y a une entente, parce qu'au départ, la ville de Beauharnois ne veut pas investir dans un centre aquatique intérieur. C'est fait via la régie Beauchâteau, qui est la propriété, la responsabilité de Châteauguay et Beauharnois. Beauharnois paie environ 22 % des coûts de la régie et Châteauguay paie 78 %. Originalement, ce projet-là avait 4 installations, la troisième étant la piscine intérieure qui devait se faire. La ville de Beauharnois nous a mentionné qu'il n'était pas intéressé à investir dans une piscine intérieure.
Donc, ça bloquait le projet à ce moment-là?
Ça pouvait en effet le bloquer parce que la régie, quand elle a été créée à l'époque, a octroyé en fait de vote, en fait de pourcentage de décision, la même chose pour les deux villes. Donc, Châteauguay a 50 % des voix et Beauharnois a 50 % des voix. Donc, si Beauharnois s'objecte à la construction de la piscine, ben ça ne fonctionne pas. Donc, il fallait qu'on trouve un moyen d'avoir cette construction-là parce que le besoin est bien réel à Châteauguay. Donc, nous autres, on s'est entendus avec Beauharnois où est-ce que la ville de Châteauguay va assumer 100 % des coûts de construction de la piscine, des coûts d'opération. Et ça va être indépendant de la régie Beauchâteau, bien que c'est la régie Beauchâteau qui va octroyer le contrat. On le fait en séance extraordinaire mardi matin à 7 heures pour octroyer le contrat. On va de l'avant avec ça, mais ce que ça apporte également, c'est qu'il va y avoir ultimement la fin de la régie Beauchâteau. On est encore en train de négocier le tout avec Beauharnois, mais ça ne se fera pas avant la fin de la construction de la piscine. C'est bien important. Au départ, on avait eu ce projet-là. Puis je vous rappelle qu'on avait mis ça sur la glace parce que les appels d'offres qu'on avait fait, on avait reçu le plus bas soumissionnaire à 47 millions. C'était beaucoup trop élevé. Et à cette époque-là, le conseil de ville de Châteauguay m'avait donné le mandat d'aller négocier avec le gouvernement pour avoir des subventions supplémentaires et également qu'on cherche des solutions pour avoir des coûts moindres. C'est ce qui a été fait. Je tiens à souligner le travail de Joëlle Étier, qui est la directrice générale de la Régie Beauchâteau, pour revoir le projet de la piscine. Il y a une grosse modification qui a été faite dans les plans. Donc, ce qu'on a eu comme appel d'offres, ça tourne autour de 27 millions. Puis là, il y a trois installations parce qu'on avait séparé le type d'installation qu'on pouvait avoir. Il y avait ce qu'on va avoir, en fait, au lieu de te les énumérer, on va avoir une piscine de, 20, de 10 couloirs de 25 mètres par 25 mètres. On va avoir des jeux d'eau pour les enfants et on va avoir aussi une pataugeoire avec une descente, un genre de plage. Donc, on va avoir tout ça. Et en bonus, j'avais été rencontrer nos deux députés pour avoir une bonification de la subvention parce que la subvention qu'on avait reçue, le PAFIR qui s'appelle, c'était 33 % la ville, 33 % fédéral, 33 % provincial. Sauf qu'avec l'explosion des coûts, ça, on n'était plus du tout dans ce calcul-là. Donc, je suis allé rencontrer nos deux députés et Mme Maribel Gendron a travaillé très fort du côté du gouvernement provincial pour avoir une bonification et elle a réussi. Donc, on reçoit près de 2 millions supplémentaires. Donc, la subvention se retrouve à environ 16 millions de dollars sur une dépense qui va peut-être avoisiner avec les contingences autour de 29 millions. Donc, c'est quand même une très, très, très belle nouvelle. Donc, on a octroyé le contrat mardi matin. Donc, ça va aller de l'avant. Donc, on est très heureux.
Pour ma connaissance à moi, là, ça sera érigé à quel endroit exactement?
C'est rattaché au Sportplex actuellement.
Bon, OK. Donc, on touche une image. Ça sera donc un prolongement.
Ça va être à l'avant. Oui, il va y avoir du stationnement supplémentaire parce que c'est un problème là-bas.
Ouais.
Mais c'est inclus là-dedans. Donc, oui, c'est à l'avant du Sportplex. C'est rattaché au même okay. bâtiment.
Merci pour cette précision. Avant que je vous laisse pour vaquer à vos occupations, il y a un autre point que j'aurais aimé qu'on soulève. On va prendre le temps de le faire parce que c'est un sujet qui perdure dans le temps. C'est le financement du transport en commun où donc le gouvernement du Québec avait statué qu'il payait une portion et qu'il retournait la balance de la facture aux municipalités. Et ça aussi, c'est un autre point qui semble injuste parce que si on fait les comparatifs, là, à quoi ça ressemblait avant et vers quoi qu'on se dirige, on voit là qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce calcul-là pour ce qui est du dossier du transport en commun.
Pour tout ce qui est transport en commun, on a des, je pourrais dire, des méga-structures autour de tout ça. C'est très difficile à suivre. Dans notre cas, ici, on est desservi, en fait, transport en commun par EXO. EXO, c'est pas l'opérateur, c'est celui qui est responsable des routes. Et EXO donne des contrats à des transporteurs. Dans notre cas, ici, c'est Transdev. Tout ce qui est financement et cote-part, c'est l'ARTM. C'est l'Autorité régionale de transport métropolitain. Ça, c'est un groupe qui est attaché à la CMM. C'est eux autres qui s'occupent du financement et qui envoient les cote-part aux municipalités. Ce qui a été fait, puis ça inclut l'ARTM, chapeaute EXO, chapeaute la STM, la RTL et la STL, donc le transport de Laval, de Longueuil et de Montréal qui est inclus là-dedans.
Ça commence à ratisser large.
Ça ratisse très large. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'il y avait un déficit de 500 millions du budget d'opération. Là, c'est très important de mentionner que dans le 500, c'est 520 millions, je pense, au départ. Il y avait 520 millions de déficit et sur ça, 70 % c'était à Montréal. Donc, la STM avait 70 % de la responsabilité de ce déficit-là. La CMM avait voté une résolution dans laquelle il donnait l'autorisation d'augmenter la contribution sur nos plaques d'immatriculation de 59 $. Le seul et unique objectif de tout ça, c'était pour le développement du transport en commun sur les couronnes, la couronne nord, la couronne sud, parce que notre transport en commun, il est famélique, on n'a pas une bonne offre de service, on a besoin de le développer, donc ça a été fait dans ce sens-là. Le gouvernement du Québec a décidé, parce que via les immatriculations, c'est la SAAC qui va venir chercher ce montant-là, le gouvernement du Québec a décidé que ce montant-là ne sera pas pour le développement, ils ont décidé de se l'approprier et on dit que ça réduit le déficit. Ils ont soudainement dit qu'il y a un montant de plusieurs millions qui a disparu, qu'on avait inventé ce montant-là, mais non, en fait, ils ont pris cet argent-là pour venir le rajouter et diminuer le déficit. Ça, c'est très malheureux parce qu'on a encore besoin de développer le transport.
Et ça, là, on ne développe plus, là. On fait juste
non,
de l'arriérage. On rétropédale.
Exactement. Dans notre cas, à Châteauguay, on n'est pas supposé payer quoi que ce soit pour le REM parce qu'on n'est pas desservi. Bref, c'est une grosse organisation qui est très difficile à suivre. Je vous avouerai, quand on reçoit les factures de la cote-part de l'ARTM, on n'a aucune idée pourquoi on paye. Ça fait des années que les villes demandent d'avoir plus d'informations sur les factures. Je paye pourquoi, là, exactement? C'est toujours un débat qu'on recommence, mais on a l'obligation de payer, puis nous, on l'envoie.
Mais est-ce qu'on ne fait pas un peu volontairement de la sourde oreille au niveau du gouvernement? On ne semble pas, parce que vous n'êtes pas le seul là, qui vient à notre table, qui nous parle de cette problématique-là. Puis on a l'impression que...
Dans notre secteur, on est quand même chanceux parce que moi, je suis sur le conseil d'administration d'Exo. Donc, tout ce qui est l'organisation du transport, je le vois un petit peu plus. Puis je parle pas quotidiennement, mais je parle à toutes les semaines de transport commun avec mes collègues des autres villes parce qu'on est 4 maires de la Rive-Sud, 4 maires de la Rive-Nord qui sont au conseil d'administration d'Exo. Récemment, la mairesse de Mercier a été nommée sur le conseil de l'ARTM. L'ARTM, la représentativité des maires, elle est pourrie. Il y a 10 personnes qui sont nommées par le gouvernement, dont le président. Il y a 3 représentants de la CMM et il y a un représentant de Montréal. C'est la mairesse de Montréal. Il y a un représentant de Longueuil, un de Laval, un représentant de la Couronne Sud et un représentant de la Couronne Nord. Donc, dans notre cas, c'est une représentante, c'est Mme Michaud qui est là. Donc, il y a 5 élus à travers de quoi 14 ou 16 membres du CA. C'est pas balancé du tout. Et je vous dirais qu'en plus, la réalité des couronnes est complètement différente de la réalité de Montréal, de Laval et de Longueuil. L'offre de transport en commun à Montréal, elle existe, elle est importante. Nous, on n'est même pas rendu à ce qu'on offrait avant. Donc, c'est un énorme dossier. On a eu des négociations sur le financement. On a fait des offres. On a réussi à avoir, maintenant que les couronnes, on va payer la quote-part de l'année passée plus 4 %. Donc, c'est ce qu'on va avoir sur notre compte de taxes. À Montréal, Laval et Longueuil, eux, c'est 6,5 %. Mais il y a d'autres discussions qui doivent se faire. Mais c'est quand même un bon bout de chemin qui a été fait parce que au départ, la ville de Châteauguay, on avait une augmentation de 166 % de notre quote-part. On passait de 3,9 millions annuellement à 10,5. Ça, pour vous donner une idée, ce que la RTM voulait, c'était ça. Pour vous donner une idée, il fallait augmenter le compte de taxes de 12 % seulement et uniquement pour payer cette quote-part-là, ce qui n'a pas d'allure.
Moi, je ne connais pas ça, là, M. le maire, là, mais il n'y a pas quelque chose, on n'est pas capable de se détacher de ça, de se désaffilier. Je ne connais pas la structure. Là.
C'est le gouvernement qui l'a mis en place, ça. J'ai entendu parler que le ministre des Transports était en réflexion, voir si elle va créer une autre agence un peu plus large. J'ai hâte de voir ça. Je ne suis pas certain que de rajouter des nouvelles structures, ça vienne aider. Je pense que ça, au départ, c'est le problème. Ouais. Mais peut-être que je n'ai pas tous les détails, donc je ne me prononcerai pas vraiment.
Ça va devenir un mastodonte, là.
Ben c'est ça. Vous savez, il existe un paquet de choses qui doivent être travaillées parce que le transport en commun, c'est une orientation de société. C'est très important qu'on aille dans ce sens-là. Le gouvernement, la CMM, force les villes à faire de la densification. La densification va fonctionner seulement et uniquement si on a du transport en commun. Nous, on a ça comme projet. Là. À l'entrée de la ville, on a des projets de haute densification autour du stationnement incitatif. Donc, on doit avoir le transport en commun. Parce que dans ce secteur-là, qui est identifié comme un TOD, les espaces de stationnement sont réduits parce qu'il y a du transport en commun. Mais si on n'a pas de transport en commun, les gens vont arriver avec 2 puis 3 autos, on n'aura pas de place de stationnement. Là. On s'en va dans le mur si ça ne se produit pas. Donc, on demande au gouvernement d'intervenir puis de leur rappeler que ces obligations-là qu'ils imposent aux villes viennent d'eux. Donc, on a besoin d'avoir une orientation de société. On a besoin d'avoir des investissements réels dans le transport en commun. Puis, il faut rappeler que le REM, c'est super le fun. Je l'ai essayé, mais c'est une orientation du gouvernement seulement. Les villes n'ont pas demandé ça. Ouais. Nous, on n'a pas un service adéquat. On n'est pas capable de se rendre chez nos voisins à Saint-Constant, où en fait, si on va dans l'autre sens, les gens de Saint-Constant ne sont pas capables de se rendre à leur hôpital régional qui est Anna-Laberge à Châteauguay. Ils ne sont pas capables d'y aller en transport en commun.
Il y a des questions. On a besoin d'y réfléchir.
C'est ça. Donc, mais une orientation de société pour le transport en commun, c'est une orientation que le gouvernement provincial doit prendre. Il doit mettre le financement en place. Il doit emmener ce service-là puis démontrer clairement que c'est une orientation qu'on doit prendre. C'est important pour nous autres. On s'en va dans cette direction-là. Les villes toutes seules ne sont pas capables de financer ce genre d'installation-là puis ce genre de transport lourd qu'on a besoin un petit peu partout. Donc, c'est un énorme dossier qui va continuer à être travaillé en 2024. Toutes les maires, on a l'intention de travailler fort là-dessus puis de faire des représentations auprès du gouvernement parce qu'on a besoin de leur aide là-dedans. On a besoin de suivre cette orientation-là pour notre région, parce que c'est là qu'on s'en va. La densification, l'étalement urbain, il faut réduire ça. Ça passe par la densification, puis la densification passe par le transport en commun. On a ce besoin-là très important. Il faut que le gouvernement vienne le financer à la hauteur de ce qu'on a besoin.
D'accord. Bien, M. le maire, merci de m'avoir éclairé là-dessus. Vous êtes très combatif et oui. Fort heureusement, parce que c'est quand même, je vois qu'il y a tellement de dossiers dans lesquels, là, c'est majeur, c'est important, c'est des dossiers de grande envergure, de grande portée. Alors, c'est quand même, faut être fort, là, par certains moments donnés pour réaliser tout ça, puis ça prend donc des gens alentour de vous aussi pour vous aider.
Absolument.
Enfin, je vous lève mon chapeau.
Merci.
Sinon, je vais vous souhaiter quand même une belle parade.
Oui.
Ça va vous aider un peu.
Ça va être heureux et festif.
Ça va faire du bien, et puis on va se revoir en quelque part au mois de décembre, puisque là, on a une nouvelle année qui s'en vient. Il y a des budgets qui s'en viennent.
Et le budget s'en vient.
Ça, c'est une autre affaire. Monsieur, alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir vous exprimer sur la radio.
Merci beaucoup.
Bienvenue.